Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette dernière émission du Sens des choses. Au cours de ce temps si privilégié de l'été, en compagnie de nos invités, nous avons durant ces quelques semaines réfléchi à la question « De quoi manger est-il le nom ?» Et pour ce dernier rendez-vous, nous avons choisi d'avoir avec nous cet après-midi celui que l'on appelle souvent le paysan philosophe Pierre Rabhi.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Bon, nous avons beaucoup de sujets de conversation possibles. Et bien des sujets que nous aborderons tout au long de cette heure ensemble, puisque c'est la dernière de notre série de 8 émissions sur comment manger, de quoi manger est-il le nom. Je voudrais commencer par vous demander de rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas encore votre choix de vie et pourquoi vous êtes aujourd'hui, en effet, comme le disait Stéphanie, considéré comme paysan et philosophe, ou plus philosophe que paysan. Comment avez-vous fait ce choix? Et ce choix qui explique un peu mieux votre conception de la façon dont nous devrions nous conduire avec la nature, de la distinction entre le nécessaire et le superflu qui entraîne certains comportements.
Alors, on peut dire que vraiment, enfin c'est pas moi qui le dis, mais j'ai une espèce de destin singulier puisque je suis né dans le désert du Sahara. Il se trouve dans un pays qu'on appelle Kenadza, dans lequel les Français ont découvert de la houille. Pour exploiter cette houille, évidemment, il a fallu mettre en route tout un processus qui a bouleversé nos structures sociales, bien entendu. D'un musulman simple, plutôt d'ascendance nomade, eh bien, vivant dans une petite oasis avec un père forgeron et musicien, eh bien, c'est arrivé... où cette découverte de notre pays, de la houille sous nos pieds, a évidemment modifié totalement notre organisation sociale. Et dans cet chamboulement, on peut dire, dans cette énorme mutation qui s'est faite sans coup férir, c'est-à-dire très rapidement, ça n'a pas été graduel, un père qui se pose des questions sur finalement l'avenir de ses enfants, une mère qui nous a quittés malheureusement très tôt, un frère et moi, j'avais que 4 ans, donc orphelin. Et dans cette mutation très rapide, très déconcertante, le père qui se dit finalement l'avenir n'est plus entre nos mains, c'est les Européens qui détiennent les secrets du futur. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, je suis confié à une famille de Français, un ingénieur et une institutrice sans enfants, pour leur demander, écoutez, en quelque sorte, mettez à jour mon enfant de cette révolution pour qu'il puisse avoir une place dans ce nouveau paradigme, si l'on peut dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé passant d'un monde traditionnel musulman, de l'école coranique, etc., chez les Français qui s'étaient installés là, un ingénieur et une institutrice, sans enfant pour être éduqué. Et c'est comme ça que les choses ont commencé dans ce destin qui se révélera par la suite singulier, mais qui sur le moment ne semblait qu'un destin parmi d'autres.
Nomade, musulman, musicien, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais le point qui est resté fixe, étonnamment, c'est musicien.
Mon père était un musicien, un authentique musicien. Il pouvait jouer de la musique andalouse comme d'autres musiques. De ces gens qui ont la musique dans le sang, comme on dit. C'est pas simplement une pratique extérieure, c'est quelque chose qui est vital pour eux. Et donc chez nous, toute mon enfance, j'ai entendu mon père jouer du violon, jouer du oud, du luth, jouer, etc. Et dans cette ambiance familiale qui se caractérisait justement par la musique.
Qui est restée aujourd'hui chez vous et même chez vos enfants.
Oui, c'est-à-dire qu'on porte ça un peu quelque part comme quelque chose d'essentiel qui a toujours survécu à travers un périple personnel des plus chahutés, des plus inattendus, des plus... Et le facteur musique, c'est toujours maintenu.
Pour revenir à notre sujet, mais en même temps, j'essaie de situé d'où vous parlez.
Oui.
Vous arrivez en France, et puis vous faites différents métiers, et puis en 1961, vous décidez de tout lâcher pour partir vous installer en Ardèche.
Oui, ça c'est la faute des philosophes, parce qu'en fait, en force de s'interroger sur le sens de la vie, qu'est-ce que la vie, etc. Donc j'ai vécu très très jeune, à tort ou à raison, le fait que le monde moderne passait une espèce de contrat avec l'individu, vous nous donnez votre existence et on vous donne un salaire à vie. Et donc ce troc de l'existence pour un système qui dont l'objet est de produire soi-disant de la richesse, de la prospérité, de contribuer en quelque sorte au progrès, me paraissait chèrement payé par la confiscation que l'on faisait à l'individu de ce que la nature lui offre gratuitement, de toutes les joies et les possibilités de jubiler sur cette planète. Et du coup, on se retrouve dans une espèce d'incarcération à vie que je traduis aujourd'hui, j'essaie de traduire en disant de la maternelle à l'université en étant fermé, les jeunes appellent ça le bahut, ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, même pour s'amuser on va en boîte, on y va dans sa caisse et puis on a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte que je voulais deviner. Donc un itinéraire qui se prétend libérateur en plus. C'est-à-dire que ce qu'on fait résonner, c'est que la modernité va libérer l'être humain.
Et quand on veut se plaisanter, on met en boîte.
Et voilà, exactement, on met les gens. Je crois qu'il y a vraiment une... que j'ai ressenti fortement comme étant finalement véritablement la confiscation de l'existence d'un individu pour que cet individu soit adapté à tout prix à la logique en vigueur, qui est la logique, évidemment, de l'argent, on le sait très
donc
bien.
Donc ça vous a amené un choix, qui est de vivre à la campagne. On ne va pas rester très long, parce que votre vie mériterait des heures et des heures, mais vous vous installez à la campagne dans des conditions très, très
alors, austères. Il y a un facteur très important, c'est que au moment où je me suis mis un peu en insurrection par rapport à ce mode d'existence, la pointeuse, enfin toutes ces choses-là, la chance a fait que bon, j'ai décidé de rompre avec ce mode d'existence, comme si je quittais, je me libérais en quelque sorte. Et la chance a voulu que dans le même établissement où je travaillais, j'ai rencontré une jeune fille qui avait les mêmes aspirations et nous avons décidé d'un projet commun. Et ce qui nous a amené, une fois qu'on a fait toutes sortes de recherches auprès de personnes susceptibles de nous dire où aller et comment accomplir notre folie, finalement, ben, on s'est retrouvés... face à un Dominicain qui nous a dit en Ardèche, peut-être il y a un médecin qui s'appelle le docteur Richard, peut-être lui serait sensible à votre projet, peut-être pourra-t-il vous aider. Alors on a envoyé une lettre comme une bouteille à la mer en se disant bon, à plusieurs personnes, en disant il y a bien quelqu'un qui répondra quelque part, et c'est l'Ardèche qui a répondu à travers le docteur Richard. Du coup, ben, on est parti en Ardèche et c'est comme ça que nous
sommes installés. Vous êtes installé en Ardèche, vous avez développé une activité de production de fromage de chèvre, pour commencer. Puis, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Alors, ceci, déjà, il fallait le temps de l'enracinement. Quand vous quittez la ville, en pleine prospérité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où finalement, on disait, mais vous cherchez des problèmes, le travail, c'est pas ce qui manque. C'est vrai qu'on perdait un emploi. Le jour, le lendemain, on en trouvait un autre. D'autant plus que moi, c'était vraiment... OS, ouvrier spécialisé. On nous appelait ouvrier spécialisé pour ne pas nous vexer, parce que on était un peu les hommes à tout faire, c'est tout. Et du coup, pourquoi dans ce contexte-là où tout va bien, vous êtes en réaction? Qu'est-ce qui vous prend, quoi? Et puis alors vous décidez de retourner à la campagne. Et à la campagne, il dit comment? Vous aviez un boulot, vous aviez tout ça, et vous avez tout lâché. Ben vous êtes complètement fou. Donc on était entre le marteau et l'enclume. En amont et en aval, la désapprobation.
Alors, on va sauter les décennies, vous vous installez, vous commencez à produire, et puis, brusquement, avec un certain temps, vous faites plus que cela. Vous n'êtes plus seulement le paysan qui vit sa vie comme il a voulu la vivre, qui est devenu lui-même. Alors, mais en même temps, vous commencez à réfléchir, à écrire, à vous faire connaître, à développer des activités autres que l'agriculture. Et ça, aujourd'hui, ça vous avez une sorte d'empire, si on peut dire, autour de vous, composé de différentes formes d'activités. Peut-être pouvez-vous les décrire avant qu'on en vienne.
Alors, le temps d'enracinement, j'insiste un tout petit peu dessus, oui, parce que c'est quand même un temps très, très difficile. Nous n'avions pas de moyens financiers. Il a fallu donc avoir les attestations de mes patrons comme ouvrier agricole pour présenter au Crédit Agricole pour avoir un prêt, etc. Alors que nous n'avions pas le moindre centime. J'ai passé un petit diplôme qu'on appelle le BA, le brevet d'apprentissage agricole, qui a fait que j'ai pu présenter un dossier recevable par le Crédit Agricole qui nous a prêté. Deuxième élément qu'il faut rapporter aussi, parce que ça me paraît parmi les éléments importants à dire, c'est qu'au moment où nous avons choisi le lieu où nous voulions installer nos pénates, on peut dire, le lieu, par rapport aux critères de l'agronomie, était complètement décalé. C'est-à-dire que c'était une terre rocailleuse, il n'y avait pas beaucoup d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin pas praticable en partant de pluie, etc., etc. C'est-à-dire, tous les facteurs négatifs étaient là. Et quand je présente mon dossier au Crédit Agricole, ils me répondent, mais monsieur, nous ne voulons pas vous aider à vous suicider. Vous n'allez jamais survivre dans ce lieu. Alors, ça paraissait complètement irrationnel. Explication. Le lieu était tellement beau, c'est le critère qui a dominé dans le choix, c'est nous étions dans un lieu très beau. Et ce luxe-là est extraordinaire. Quand vous ouvrez votre fenêtre, ou même pas besoin d'ouvrir la fenêtre, parce que là, on est complètement dans... Et que vous voyez la magnificence de la nature, d'un horizon à l'autre.
C'est pour ça que vous dites aujourd'hui que la chose que l'humanité devrait rechercher et qu'elle ne recherche pas, c'est la joie.
C'est-à-dire qu'on compense le manque de joie par l'excès de plaisir. C'est-à-dire que... Le plaisir, on peut y accéder à la rigueur. On a de l'argent, on peut même s'acheter un yacht, tout ce qu'on voudra. Mais c'est pas parce qu'on a un yacht qu'on a la joie. Parce que la joie est d'une autre nature. Elle est d'une nature beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que c'est cette satisfaction profonde qui donne à l'âme une énorme légèreté. C'est ça, la joie. Et celle-là, elle s'acquiert pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui préexiste. À mon avis, la joie existe dans la création, dans la nature, dans la beauté de la nature. Et c'est pas l'acquérir, c'est s'ouvrir à. Et elle nous submerge, comme l'air, comme tout. La joie préexiste pour moi. Elle n'attend que ça. La planète est magnifique, elle est belle, elle est tout ce qu'il faut. Et c'est l'apprentissage de l'ouverture que nous pouvons avoir pour accueillir cette joie et nous en nourrir comme nous en nourrissons d'air ou d'eau ou de n'importe quel autre truc. Ça ne s'acquiert pas à travers un processus quelconque. On peut avoir des milliards. On peut avoir du plaisir, oui, ça, mais la joie, c'est quelque chose que l'on trouve chez des gens qui n'ont parfois presque rien et qui est absente chez des gens qui auraient normalement tout pour l'avoir.
Alors, vous avez quitté un monde industriel et urbain pour aller produire de la nourriture. Donc, oui, ça veut dire que vous avez quand même un rapport particulier à la nourriture, qui est notre sujet de préoccupation aujourd'hui. Pourquoi la nourriture est-elle devenue, à ce moment-là, pour vous, si importante? Et pourquoi avez-vous décidé d'y consacrer votre vie?
Pierre Rabhi.
Je vous remercie vraiment d'avoir mis ça comme... vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir mis dans le raisonnement et dans la réflexion collective cette notion de nourriture. Parce qu'en fait, elle est aujourd'hui complètement banalisée, dans le sens où on a l'impression qu'on fait le plein. On a plus l'impression de rechercher quelques restos où c'est bon, c'est meilleur, etc. Mais on a l'impression que la nourriture est devenue le carburant de l'organisme. Certes, on éprouve certains plaisirs à goûter les saveurs, etc. Mais la nourriture est plus que cela. C'est-à-dire que la nourriture, ce n'est pas simplement de mettre dans son estomac le nécessaire pour fonctionner. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous met en rapport avec la subtilité de la vie elle-même. La subtilité de la vie, celle qui donne les saveurs, celle qui donne ces choses magnifiques que l'on a dans sa bouche et qui nous amène cette magnifique satisfaction profonde d'être relié à la vie. Et dans la nourriture, malheureusement, l'un des facteurs extrêmement préoccupants aujourd'hui, c'est que la nourriture que nous produisons aujourd'hui avec les méthodes agronomiques en vigueur, qui ont été mis en place avec la pétrochimie internationale et tout ça. C'est-à-dire des méthodes de production qui ne prennent en compte que la productivité, l'efficacité, etc. ont en quelque sorte aboli la subtilité qui doit accompagner, si vous voulez, la nourriture avec ses saveurs, etc. Donc ce qui fait que on produit une nourriture sur une terre qui a été dénaturée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus naturelle, la terre. C'est devenu un substrat dans lequel nous mettons des substances chimiques, nutritives, etc. Et on l'a fait produire avec des techniques agronomiques qui la détruisent plus qu'ils ne la maintiennent. Parce qu'on peut dire que l'agriculture moderne détruit le patrimoine nourricier. Je vais peut-être me faire fusiller, je ne sais pas quoi, mais je dis qu'on détruit aujourd'hui le patrimoine nourricier et détruit par l'agronomie moderne. Voyez,
Pierre Rabhi, est-ce que vous pensez que l'homme détruit ce patrimoine nourricier consciemment ou inconsciemment ?
Je pense que c'est plus inconscient que conscient. Et je pense qu'en allant dans ce schéma de pensée, qui est le schéma de pensée de l'efficacité, de la science, qui est parfois de la pseudo-science, qui n'est pas une vraie science, qui est une science même contraire à la science, dans cette ambiance générale de la performance productive, de toutes ces choses-là, la modernité inclut comme étant les facteurs positifs, eh bien l'agriculture a été traitée de la même façon. Alors que là, on n'a plus affaire, on a confondu la matière minérale avec la matière vivante. Et on a fait de la terre une matière minérale alors qu'elle est une matière vivante.
Je me fais l'avocat du diable pour vous pousser dans votre raisonnement. Et ne prenez pas ce que je vais dire comme une critique, mais comme une façon d'aller plus loin. Ce que vous dites, c'est que l'homme, pour se nourrir de la façon dont il souhaitait se nourrir ou dont il devait se nourrir, a conçu la nature comme à son service. Et en concevant la nature comme à son service, donc en la réifiant, en la transformant en objet, il a voulu affirmer qu'il en était le maître.
Oui.
Mais au fond, pourquoi pas ? Si l'homme est là pour dominer la planète, ou si l'homme considère que tout le reste de l'univers doit être à son service, et si la nature peut mieux servir le bonheur ou la joie de l'homme en étant maîtrisée par lui, comme on a maîtrisé les maladies, pourquoi pas ? Puisque nous ne sommes pas restés dans l'état où nous avons trouvé la nature quand l'humanité a commencé il y a 300 ou 400 000 ans. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt de la nature que la nature doit être préservée ? Ou est-ce que c'est dans l'intérêt de l'homme que la nature doit être préservée, de votre point de vue ? Ou est-ce que les deux vont de pair ?
Non, il y a un quiproquo parce que nous sommes la nature. Il y a une journaliste importante qui est venue me voir il y a quelque temps parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau. 80%. Donc vous faites une enquête sur vous-même. C'est notre plus grande composition, c'est l'eau. Donc nous sommes 80%. De l'eau. Alors elle faisait une enquête sur l'eau. Et je pense que cette ignorance du fait que nous sommes intrinsèquement liés, que nous sommes la nature, nous-mêmes nous sommes la nature, a amené l'homme finalement à s'autoproclamer le patron. Mais le patron de quoi ? Je pense que c'est pas un scoop que de dire chacun de nous est inscrit au départ. Et même, on peut venir avec des milliards et offrir à la mort des yachts et des milliards et ça négocie pas. On s'en va, puis c'est tout. Et donc là, il y a une loi générale qui fait que personne ne peut sortir de cette condition qui est celle que nous sommes mortels. Et le problème du fait que nous savons que nous sommes mortels, évidemment, c'est ce qui a été la source des plus grands problèmes et de la quête absolue de sécurité. Alors la quête absolue de sécurité, il y a ce qu'on peut analyser par les faits eux-mêmes, et il y a les projections que nous pouvons faire dans l'inconnu. Je mourrai, mais je renaîtrai, etc. Moi, j'en sais rien. Strictement rien de tout ça.
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez, mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Verrez agile sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants, de fraîches guinguettes, des figues bien faites, des frites sont prêtes, et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les figues sont belles, du côté de nos gens. semble donner la cadence. Pour fauter dans les prés, du côté de nos gens. Assez-je charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ça n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la jeune enfant. Ma fille raconte comment, triste honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les prés, du côté de nos gens.
Ah, le petit vin blanc de Robert Marna, nous sommes en 1945, c'est la libération. Il faut redonner envie aux Français de s'amuser, de vivre, de retrouver cette joie dont vient de nous parler Pierre Rabhi et qui nous sommes cet après-midi pour notre dernière émission du Sens des choses. Jacques Attali.
Dans votre vie quotidienne, quelle place a pris la nourriture dans la mesure où vous êtes producteur en même temps d'une partie de ce que vous mangez?
Oui.
Est-ce que le fait d'être producteur de votre nourriture a changé ou modifié votre rapport à la nourriture? Et est-ce que ce n'est pas un rapport particulier en raison de cela qui est très difficile de généraliser à ceux qui sont obligés, parce qu'ils font autre chose, d'acheter ce qu'ils mangent?
Oui, j'ai ce privilège. Bon, il faut être clair, nous ne suffisons pas à tous nos besoins. Il y a évidemment des besoins, on a recours à certains besoins par l'extérieur. Mais nous tâchons, bien sûr, ayant de la terre, ayant de l'eau, ayant les moyens de travailler, d'essayer de satisfaire à nos besoins alimentaires au maximum de ce que nous pouvons, sans prétendre répondre à tous nos besoins. Mais ce qui est très important, c'est que faisons pousser notre nourriture sur des terres vivantes. Je reprends ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que la terre est nourrie elle-même. Nous nourrissons la terre pour qu'elle puisse nous nourrir aussi. Mais nous la nourrissons en la ramenant dans sa logique propre, qui est une logique biologique. Ce n'est pas une logique chimique, c'est une logique biologique. Et cette logique biologique, qui est sa nature depuis les origines. Et depuis les origines, il y a un principe qui est fondamental, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et quand on rentre dans cette logique, Lavoisier, je crois,
si absolument.
On rentre dans la logique de la continuité, c'est-à-dire où nous travaillons la terre, nous produisons ce qu'il faut, mais sans épuisement. Et, au contraire, on maintient ce volant dynamique nourricier en traitant la terre sur des principes de la non-dissipation. Et ayant une terre qui est pourvue en oligo-éléments, en microbes, en humus, etc., eh bien, c'est un estomac extraordinaire, la terre, c'est un estomac extraordinaire qui sécrète des sucs, etc. Et quand vous mettez votre plante ou votre graine dans la terre, dès son réveil, quand elle va émettre ses racines, elle va trouver à sa disposition toutes les substances fondamentales. Absolument fondamentale, indispensable à la vie elle-même. Et à partir de ce moment-là, elle va pousser, elle va croître. Et quand vous allez consommer ce qu'elle vous a donné, vous consommez quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Ce n'est pas de l'ordre de la mort. Voilà. Et ça mérite, on dit que la nourriture produite aujourd'hui industriellement nous amène, quand on se met à table, à se souhaiter beaucoup plus bonne chance que bon appétit. Parce que ce que nous ingurgitons nous fait du mal, réellement.
Il y a de la nourriture en boîte.
Voilà. Et on met donc dans notre propre organisme des substances. D'abord une nourriture qui n'est pas vivante. Deuxièmement, une nourriture qui est vecteur de nuisance.
Alors, est-ce que vous diriez que la nourriture que vous recommandez vient de l'agriculture bio? Et c'est quoi pour vous, votre définition de l'agriculture bio, qui est tellement galvaudée par des tas de concepts plus ou moins flous?
Alors je mets de côté toutes les fioritures qu'on met autour de la bio, etc. C'est une réalité très simple que je viens de décrire, c'est-à-dire la nourriture bio. Eh ben c'est une nourriture que l'on fait pousser dans une logique vivante et non pas dans une logique chimique. Parce que le problème, c'est que quand on met de la chimie dans le sol, on tue d'abord, comme je le répète, toute la vie du sol, et ensuite les substances que la plante va absorber, ce sont des substances rendues solubles. C'est-à-dire que la plante va se gorger de ces substances parce que pratiquement les substances violent la plante et elle est obligée de les absorber. Et quand elle a absorbé tout ça, elle est saturée. Et étant saturée, la plante ne peut plus aller chercher les oligo-éléments, les sels minéraux, tous ces éléments subtils parce qu'elle est saturée. Et donc du coup, vous avez une nourriture terriblement appauvrie en éléments qui sont les grands protecteurs de la santé, qui sont vraiment les éléments qui protègent la santé, et que quand on met dans son corps ces éléments, eh bien, on a pratiquement mis une quantité de remèdes en soi-même, parce que la terre devient non seulement la terre mère nourricière, mais la terre pratiquement protectrice de la santé. Et quand on a ça, ben on a fait de gros dégâts avec l'agriculture, dite maintenant productiviste chimique.
Alors, indépendamment de la chimie, des engrais qu'on met dans le sol, qu'on ne devrait pas mettre, vous menez un combat pour le fait qu'on utilise ou qu'on puisse réutiliser des semences naturelles, c'est-à-dire des semences qui puissent être réutilisées une fois produites, oui. Et non pas des semences qui ne sont pas réutilisables et qui sont produites et vendues comme étant stériles et non pas fertiles par l'industrie chimique. En quoi les semences stériles constituent-elles un élément de l'agriculture chimique ?
Ben, elles sont reliées, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des hybrides, on fait bientôt les OGM, etc. Mais ça, on n'en a pas besoin, je veux dire. Il faut savoir que le patrimoine semencier de l'humanité depuis 10 à 12 000 ans est absolument remarquable. Et on a tout liquidé parce qu'il y a des stratégies commerciales. C'est-à-dire que pour créer de la dépendance, et de la dépendance à l'égard des trusts qui veulent, eux, évidemment, commercialiser leurs trucs. Donc il y a toute une stratégie. On confisque aux êtres humains ce qui leur revient de droit librement. De génération en génération, je reçois, mais je transmets, et on continue à recevoir et à transmettre ce patrimoine absolument splendide que l'humanité a collecté, même pendant les guerres, on allait guerroyer, etc., on ramenait des graines bizarres, on les transportait. C'est comme ça que les semences se sont propagées sur l'ensemble de la planète. Il y a seulement quelques siècles, on ne connaissait pas le maïs, on ne connaissait pas des tas de plantes comme ça, les tomates, etc. Donc ce patrimoine magnifique, collectif, qui est vraiment le vrai patrimoine vivrier, le patrimoine vital. Là, il faut bien souligner le terme vital. Il est vital. Eh bien, aujourd'hui, il a disparu à 75%. Et nous essayons, nous, dans ces livrets que nous avons créés avec Juliette Duquesne, c'est d'attirer l'attention sur ces problématiques pour que le grand public soit informé. Parce que le grand public n'est pas informé. Il est comme ignorant de ce qui est extrêmement important et vital pour le futur et peut-être bien au courant de ce qui est éphémère et ce qui est passager.
Alors, précisez là-dessus, est-ce que les paysans ont le droit ou pas le droit d'utiliser des semences reproductibles ou est-ce qu'ils sont obligés d'utiliser des semences qui ne sont pas reproductibles ?
Il y a une tendance à pousser le plus possible d'agriculteurs à utiliser des semences chimériques, c'est-à-dire celles que l'être humain a produit à des fins de profit considérables, en confisquant au genre humain ce qui lui revient de droit depuis des siècles.
Des semences qui produisent des plantes qui elles-mêmes ne produisent pas de semences.
C'est-à-dire que même il y a eu des leurres en Inde où beaucoup d'Indiens se sont suicidés parce qu'ils ont mis en terre des semences qui ne se reproduisaient pas. Quand ils ont récolté, ils ont fait comme d'habitude, on prend les graines qu'on a récoltées et de ces graines qu'on a récoltées, on met la part pour se nourrir et la part pour reproduire. Et la part reproduire est semée, la plante pousse, mais est stérile. Et il ne récolte plus rien. Et il y a eu des suicides réels que Vandana Shiva, par exemple, évoque ou d'autres, pour dire vraiment que ça a été un traquenard pour un nombre de paysans qui sont les malheureux naïfs. Hein, ils écoutent le miracle
Mais rien n'interdit aujourd'hui à un paysan, où que ce soit, d'utiliser des semences ayant la capacité de se reproduire.
Il y a peut-être des interdictions, il y a peut-être des lois, mais ça ne m'étonnerait pas, parce que la perversion et le machiavélisme, si vous voulez, des affairistes, n'a pas de limite. Le scénario est en place. Seulement, quand on arrive à 75% de semences déjà disparues, on commence à frôler l'hyper-danger. Parce que sans les semences, il n'y a plus de vie.
Alors Pierre Rabhi, combien de temps, selon vous, la Terre supportera-t-elle l'arrogance de l'homme ?
Moi, j'ai essayé de faire un petit poème il y a quelques années en disant la Terre s'est préparée bien avant nous. C'était des milliards d'années avant nous. Et puis, elle se fait belle, etc. Elle a ses forêts, elle a ses océans. Certes, elle a ses convulsions, ses choses difficiles pour elle à assumer, ses éruptions volcaniques. Mais enfin, elle se fait belle. Voilà. Et à un moment, elle se dit, je suis belle, mais à quoi ça sert ? S'il n'y a personne pour admirer. Et elle aurait créé l'homme pour ça. Et malheureusement, elle s'est gourée. L'homme qui aurait dû venir au monde pour admirer, pour se nourrir de la beauté, pour se nourrir de ce qui nous est offert, mais sans argent, gratuitement. On ne paye pas un coucher de soleil, il n'y a pas... Peut-être que ça va être instauré, si vous voulez, au train où vont les choses. Et moi, dans mon imaginaire poétique, c'était ça. C'était l'être humain, une minute et demie à deux minutes sur 24 heures, il vient d'arriver, il est tout à fait retardataire. La Terre n'a pas eu besoin de lui, elle risque de ne pas avoir besoin de lui, de toute façon. Et lui, il est venu pour admirer. Pour bien sûr tirer parti de ce qu'il lui a offert. Malheureusement, on a stérilisé, on a éliminé la poétique. C'est-à-dire un monde pratico-pratique, rationaliste, scientifico-technique, etc., a éliminé complètement ce qui, justement, est capable de nous donner la joie et pour ne garder que le squelette de la vie. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on consomme beaucoup d'anxiolytiques parce qu'on n'est pas bien dans sa peau.
Alors justement, puisque vous utilisez cette métaphore de la féminité pour parler de la Terre, oui. La Terre comme mère nourricière, quel regard portent les femmes sur toutes ces questions ?
D'abord, les femmes, moi je suis très blessé par la subordination universelle de la femme et du féminin que porte la femme, parce que l'équilibre est féminin et masculin. Et malheureusement, la subordination universelle de la femme a en quelque sorte déséquilibré l'histoire. Toute l'histoire a été déséquilibrée par cela. Et aujourd'hui, l'une des grandes carences, c'est que la partie féminine qui devrait intervenir dans la modération, je ne dis pas que les femmes sont des saintes, elles ont aussi leurs défauts comme tout le monde. Mais en tout cas, la réalité telle que nous la vivons, la réalité telle qu'elle existe, elle est faite du masculin et du féminin. Et même quelquefois, on s'aperçoit que le féminin est parfois encore plus important. Je pense que si un bébé, quand il vient de naître, on lui dit tu choisis ta mère ou ton père, il est évident qu'il va choisir sa mère. Ça, c'est évident, parce qu'elle est celle qui lui transmet la vitalité. Mais il a besoin du père pour le rééquilibrage du tout. Et aujourd'hui, l'une des grandes déséquilibres de l'histoire, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a été vraiment la subordination de la femme, qui est partie d'ailleurs à partir de Ève qui a croqué la pomme, et depuis on est dans les emmerdements, je m'excuse de dire ça à la radio.
Encore une histoire de nourriture.
Toujours la nourriture, c'est la pomme, voilà. C'est la pomme et le pauvre Adam, il a été victime de... Donc ça paraît des anecdotes ridicules.
On a parlé de ça dans une de nos émissions.
Mais elles impriment dans l'esprit. J'ai lu toute la Bible. Quand on rencontre une femme, il faut qu'elle soit exceptionnelle. Sinon, elle est douteuse. Voilà. Et même ça, jusqu'à la femme adultère...
C'est ce que dit la Bible, selon vous, c'est ça ?
Moi, c'est ce que j'ai lu.
Oui, c'est ça.
Maintenant, il y a des traductions. Il y a peut-être des exégèses différentes. En tout cas, c'est ce qu'on met dans la caboche des gens. C'est ça, l'endoctrinement que l'on met dans la tête des gens. C'est que la femme serait, etc. Il n'y a qu'un type qui s'appelle Jésus. Au moment de la femme adultère, c'était la femme qui avait violé l'homme, bien sûr. C'est évident. Et donc, c'était elle qui était lapidée. C'est pas, etc. Et quand il dit, écoutez, remettons les choses à leur place. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Eh bien, il y a une tentative de réhabilitation du féminin dans le sens où, où le féminin et le masculin sont indissociables, c'est à cela que nous devons nous-mêmes notre existence. Et quand on va vers des sciences, on va produire des êtres sans ni père ni mère, etc. Moi, je suis dubitatif par rapport à ça.
Alors revenons sur la nourriture. Vous êtes, puisque chacun ne peut pas être en situation de produire toute la nourriture, vous êtes partisan de ce que nous ne consommions autant que possible que ce qui est produit le plus proche de nous.
Oui.
Comment est-ce que vous imaginez une société de ce genre, dans la mesure où plus des deux tiers de l'humanité vont bientôt vivre dans des villes? Comment est-ce que c'est possible?
Pierre Rabhi.
C'est-à-dire que là, ça m'évoque la démographie. C'est-à-dire qu'on invoque la démographie comme étant responsable de la faim dans le monde. C'est faux. Et c'est accablé. Et c'est ceux qui viennent de manger un bon repas qui, à la fin, vous parlent de la faim dans le monde parce que nous sommes nombreux, etc. Bon, entre la poire et le fromage, on dit des choses. Sauf que quand on regarde véritablement, et c'est l'objet d'un de nos carnets aussi, c'est la faim dans le monde, c'est que la faim dans le monde est totalement anormale, totalement une anomalie. Parce que si on met la capacité de la planète à produire et les ressources qu'il y a déjà, quand un pêcheur va pêcher du poisson, et il prélève dans l'existant. Il n'a pas fait. Maintenant, on fait de l'élevage de poissons, mais enfin, la plupart du temps, on prélève dans ce que la nature a déjà produit. On n'a pas. Donc, elle a déjà produit elle-même. Et donc, quand on évoque cette histoire, il faut jamais oublier que la planète est pourvue largement, très largement, et que c'est les mécanismes pernicieux, des mécanismes pervers qui ont abouti finalement à faire des populations entières qui se sont nourries pendant des siècles ne le peuvent plus. Et je peux témoigner d'une chose précise. J'ai travaillé dans le Sahel, donc ce que je dis, ce n'est pas des théories générales, c'est pas ici d'une thèse ou d'une antithèse, c'est véritablement ce que j'ai pu expérimenter en créant le centre de formation à l'agroécologie avec le point Mulhouse, etc., en plein Sahel, pour amener les paysans à cultiver bio et à éviter de se ruiner avec des engrais chimiques, des pesticides de synthèse, eh bien, la productivité de la terre est immense.
Absolument. Vous avez fait ça où exactement?
Immense, pardon?
Où avez-vous fait ça exactement?
Au Burkina Faso. Nord du Burkina Faso, centre de formation à l'agroécologie de Gorom-Gorom, où on a enseigné à des milliers de paysans les techniques de l'agriculture écologique pour qu'ils se libèrent des engrais chimiques qui leur coûtaient très cher, se libèrent des pesticides de synthèse, se valorisent leurs semences et luttent aussi contre l'érosion, parce que nous sommes dans des zones où l'érosion est très accélérée. Et l'érosion, ça veut dire que la terre nourricière s'en va. D'un côté, on la détruit à coup d'engrais et de choses, de pesticides, etc. Et de l'autre côté, elle est détruite parce que le dénudement du milieu, ça c'est dû à l'être humain qui déboise, le déboisement, etc., met les terres à nu, ce qui fait que ce dépouillement végétal de la terre-mère fait que quand les pluies tombent, il n'y a plus rien qui les retient. Et donc la pluie qui est censée être bénéfique, eh bien elle emporte la terre. Et c'est comme ça que vous avez une accélération de l'érosion. Autre facteur négatif, c'est qu'à partir du moment où une terre est dénudée, vous avez le rayonnement solaire réchauffe l'atmosphère par réverbération. Donc l'atmosphère est réchauffée. Étant réchauffée, bah, le phénomène de ce qu'on appelle la condensation ne se produit plus. Parce que condensation, il faut un élément froid, un élément chaud. Comme le couvercle, le couvercle atmosphérique est lui-même réchauffé, il n'y a plus de condensation, donc les pluies se raréfient. Alors vous voyez, à partir d'une pratique humaine, comment on arrive dans un processus négatif qui fait que les pluies se raréfient, la sécheresse s'installe de plus en plus et les populations ne mangent plus à leur faim. C'est l'une des raisons de la sécheresse, c'est aussi les pratiques humaines. Donc il faut reprendre tout ça si on veut véritablement rétablir l'équilibre.
Alors Pierre Rabhi, vous nous parlez de paysans qui ont été formés à des pratiques particulières pour pouvoir prendre soin de la terre. Nous, à notre niveau, les auditeurs, moi, Jacques Attali, qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer une intelligence, et quelle intelligence pour prendre soin de la terre nourricière et pour remettre la nature et l'humain au cœur de toutes ces préoccupations?
Ben, disons qu'en tant que consommateur, je déteste ce terme parce que franchement, bientôt on décrira un homme avec les mandibules et c'est tout. Il y aura plus. On n'est pas quand même des gens qui uniquement des bouffeurs, quoi. Les consommateurs, c'est stupide de nous appeler comme ça. Nous sommes quand même d'abord tous des êtres humains. Donc il y a ceux qui peuvent agir directement sur le milieu. Ben, ils le font. C'est l'agriculture bio que nous enseignons. Nous avons des structures. Les gens peuvent aller sur Internet et ils verront que nous ne sommes pas que des théoriciens. Nous avons.
C'est votre activité qui n'est plus seulement d'être un paysan. Non, en Ardèche, mais vous avez beaucoup d'autres choses autour de votre ferme.
Oui. Alors on a créé. Disons, je peux dire sans vanité que j'ai été à l'origine de la création de Terre Humanisme en Ardèche, formation. J'étais créateur de, avec mon ami Maurice Freund de Pointe-Mulhouse, du centre de formation à l'agroécologie de Gorom-Gorom, qui n'est plus en fonction maintenant, mais qui a fait son œuvre. Nous avons, vous avez entendu parler de colibris. Hein, les colibris qui sont en train de se développer aussi, avec Cyril Dion, d'autres qui agissons. Nous sommes en train de mettre en place un mouvement qu'on appelle les femmes semencières. Vous avez le monastère de Solan, orthodoxe, de femmes orthodoxes, qui me demandent mon avis sur la gestion de leur domaine qui fait 65 hectares. Qu'est-ce que nous venons d'acquérir un domaine pour installer notre communauté. On fait quoi? Ben, faites de l'agriculture écologique. On ne sait pas faire. Je vous accompagne et je vous aide. Et je suis même devenu, j'ai fait un putsch puisque je suis devenu vice-président de l'organisation. Et ces femmes font un travail absolument remarquable. Vous avez ma fille Sophie qui a créé le Homo Debui. Ça partit de l'idée selon laquelle nous sommes dans un monde qui se désertifie et qu'il faut créer des oasis, des lieux oasis dans lesquels les gens se retrouvent parce qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations et ils vont se regrouper pour vivre ensemble, créer de la solidarité, de la convivialité. Parce que ça l'avenir, c'est pas ça. Chacun
c'est,
pour soi.
C'est ça que chacun peut faire pour faire bouger les lignes, bah, c'est déjà se mettre sur ces valeurs-là, voilà, la solidarité.
Toutes ces choses, moi ce que je demande aux gens, c'est aller sur Internet et vous verrez la liste de tout ce que nous essayons de faire. Nous venons de fonder un centre de formation au Maroc, à côté de Marrakech, qui est destiné à former les paysans à l'agriculture écologique. Et ils sont contents parce que ça les libère des engrais chimiques, des pesticides et compagnie. Le mouvement, bien sûr, pour la lutte, pour la sauvegarde de la biodiversité est essentiel. Essentiel, ça va créer la femme semencière, c'est-à-dire en impliquant les femmes dans la sauvegarde de la vie finalement, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et toutes ces idées, on en a d'autres encore qui sont en cours, si nous avons les moyens, c'est appuyer les initiatives importantes qui sont exemplaires, les appuyer, parce que souvent il y a des gens qui ont des aspirations, il leur manque un peu de moyens financiers, c'est tout. Mais l'énergie est là, la volonté est là. Elle est là, elle est forte. Mais il manque un peu de moyens, donc il faut essayer. On a créé un fonds de dotation qui est destiné justement à collecter un peu de moyens pour pouvoir appuyer les initiatives qui donnent de la vie, qui sont, moi je dirais aujourd'hui, que ce qui prépare l'avenir, c'est la société civile. J'ai un grand respect pour les politiques, je ne suis pas dans leur conscience, à eux de voir où ils en sont quand ils se regardent dans la glace. Moi, je ne peux rien. Mais je veux dire, au niveau politique, aujourd'hui, il faut vraiment stimuler et appuyer la société civile. Thank you.
J'ai toujours pensé que ce passage de moment musical de Schubert était propice à la méditation.
Tout à fait. Tout à fait, c'est là, vous avez bien sélectionné, parce que c'est l'une de... il se trouve que j'ai une culture classique, disons, pas seulement, mais enfin j'ai une culture classique assez forte, et que c'est parmi les créations qui sont très inspirées.
Est-ce que vous méditez vous-même,
Pierre Rabhi?
Méditer dans le sens de se mettre en posture, etc., moi j'appelle ça de la relaxation. J'appelle pas ça méditation. Ce que j'appelle méditation, c'est quand on est présent aux choses et que on ne met pas une barrière par rapport aux choses, on se met pas en condition de méditer. Nous sommes en train de méditer là, mon ami Attali. Nous sommes en train de méditer. C'est ça. C'est pas parce qu'on va se retirer chacun dans sa chambre, se mettre en condition, je sais pas, mettre une bonne musique, méditer, on ne médite pas assez la vie elle-même. Il faut méditer la vie, il faut pas se barricader spirituellement en soi et dire voilà, là, ici, ça y est, non, on est relié à la vie.
Est-ce que le repas est un lieu de méditation en ce sens?
C'est un lieu de convivialité. Qui finalement, c'est le temps de rassemblement de la famille, un temps de convivialité, un temps de... On savoure ensemble. Quand c'est parfait, on est en amour ensemble, et la nourriture devient, au-delà de la nourriture, de simplement mettre de la nourriture en soi, elle devient un prétexte à se rassembler et à être ensemble et à jubiler ensemble, à partager ensemble ce qu'il y a de meilleur.
Est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs le meilleur endroit pour éduquer aux saveurs, éduquer à ce qu'il faut faire, les enfants ou les...
Oui, il y a une partie, évidemment. Quand on est autour d'une table, on est là aussi pour l'équité. Quand on met un plat au milieu de la truc, s'il y en a un qui en prend les trois quarts, il laisse les autres. Ça veut dire que c'est un indice mauvais. Et c'est le lieu où l'enfant peut apprendre le partage, véritablement.
J'ai toujours remarqué que cette banalité que on passe, ou plutôt les gens qui font la cuisine, passent beaucoup plus de temps à préparer le repas qu'en général on ne passe de temps à le manger.
Oui,
vous faites la cuisine?
Ah oui, j'aime beaucoup. Moi, tout ce qui est ménage, je fais volontiers la vaisselle, je fais volontiers, s'il faut balayer, je balaye, s'il faut, j'ai pas fait le partage entre le travail qui serait féminin, le travail réservé aux femmes, le travail réservé aux hommes. Moi, j'adore faire la vaisselle. Et c'est même un temps de méditation, justement.
Je vous aime.
et la cuisine.
Pour moi, c'est... Il n'y a pas de partage de travail femme-homme. S'il faut faire la lessive, je fais la lessive. Il n'y a rien qui me rebute du travail. Ce partage travail féminin-travail masculin me paraît stupide.
Et la cuisine, vous aimez faire la cuisine?
J'adore. J'adore parce que c'est une alchimie. Alors évidemment, c'est une alchimie. C'est-à-dire d'abord, ça vous amène à harmoniser les saveurs. C'est un art extraordinaire pour aboutir à travers la synthétisation de tous ces ingrédients... un final qui serait en quelque sorte le point culminant de toute la démarche et qui aboutirait à donner de la joie et de la saveur.
Il n'y a rien de mieux. Alors qu'est-ce que vous mangez? On regarde tout ce que vous venez nous expliquer, de nous dire sur les saveurs.
Le choix de ma nourriture, c'est un peu mon estomac qui me le dicte. Est-ce que je peux digérer, est-ce que je ne peux pas digérer? Bon. J'adore le vin, malheureusement je ne le digère pas. J'ai eu ma mère adoptive qui était bourguignonne. Du mercuré. Donc elle sifflait sa bouteille entière et elle se demandait pourquoi je prenais pas un demi-verre de vin. Bon, j'adore le vin en tant que matière alchimique. C'est-à-dire que c'est le résultat de toute une alchimie, de toute une transformation. Vous vous rendez compte les milliards, les millions de bactéries qui ont travaillé pour que tout ça, on arrive à cette quintessence, une vraie quintessence. Donc c'est une quintessence extraordinaire. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, mes boyaux ne supportent pas. Alors, il y a, comme je suis gémeaux, alors il y a celui qui dit, si, boit un coup, l'autre dit, non, il faut faire attention. Donc, du coup, voilà, je suis dans un dilemme que j'ai résolu en disant, je peux me passer de quelques gorgées de vin parce que autrement ça m'amène des désagréments et voilà.
C'est amusant, je vous demande ce que vous mangez, vous me répondez ce que vous buvez.
Ce que vous ne buvez pas.
Oui, alors je tiens toujours à enlever une ambiguïté parce que les gens voyant ma vie dans quoi je suis engagé égale végétarien. Je dis je ne le suis pas végétarien, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc j'étais fatigué, malade, etc. Donc je mange de la chair animale, mais par contre en militant énormément pour la condition animale. Il est honteux d'infliger aux animaux un statut selon lequel ce serait des protéines sur pattes, et c'est tout. Et on ne voit plus la créature en tant que telle, dans sa souffrance, dans ses émotions. On a eu des animaux, ils ont des émotions aussi, les animaux, ils ont tout ça. Et là, on gomme tout pour ne voir que l'usine à produire des protéines animales à travers la souffrance animale. Et là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Dans mon enfance, l'animal était en quelque sorte intégré un peu à la vie au quotidien avant d'être sacrifié. Parce qu'on a une fête qui s'appelle l'Aïd el-Kébir et tous les ans, on sacrifie des animaux. La condition animale, je ne suis pas d'accord ce que on leur inflige. Mais devenir végétarien, alors certains me disent que je suis dans une contradiction. Peut-être, j'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, mon organisme, mon corps, qui est frêle, hein, qui n'a rien à voir avec... j'ai fait l'essai d'un végétarisme un peu prolongé et je l'ai payé cher parce que je n'étais pas bien. Et quand j'ai vu certains médecins, ils m'ont dit « Vous avez une carence énorme dans la protéine animale parce que toute votre enfance, vous avez été nourri et grandi avec cette protéine animale. Maintenant, elle vous manque et votre corps est complètement désarçonné, ne sait plus du tout comment retrouver l'équilibre. » Voyez.
Est-ce que vous recommanderiez aux gens qui nous écoutent un comportement particulier à l'égard de la nourriture? Est-ce qu'en particulier, vous recommanderiez, au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure, de faire soi-même la cuisine de temps en temps pour en ressentir la complexité?
Bien sûr, l'idéal, quand on le peut, c'est déjà... Quand on peut cultiver ses légumes, quand tu peux cultiver, avoir un petit poulailler, avoir un petit truc, quand on est en situation de le faire, je recommanderais, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, ça serait intéressant que les gens le fassent. Et à ce moment-là, on reprend une maîtrise en quelque sorte de la nourriture. On ne peut plus nous traiter de consommateurs, de ceux qui laissent faire les autres et nous n'avons qu'à consommer. Pour moi, rentrer dans la problématique de l'alimentation, c'est commencer par la terre elle-même. Voilà. La terre elle-même, si on a conscience de la terre, de sa vitalité, de la nécessité de la maintenir vivante, etc., elle produit la nourriture et c'est magique. C'est magique parce que vous mettez une graine insignifiante. Et de cette graine insignifiante jaillit un plant de tomate, par exemple, qui va vous donner des kilos de tomates.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'humanité est en train de se suicider par la façon dont elle se nourrit? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une réorientation naturelle qui est en train de se produire? Ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir en passer par une crise grave et des contraintes sur les quantités de nourriture disponibles pour chacun pour que l'humanité prenne conscience des changements nécessaires?
Pierre Rabhi.
Oui, il y a des gens qui sont déjà dans la crise grave. C'est-à-dire ceux qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui se nourrissent comme ils peuvent avec peu, ils sont déjà dans la crise. La crise n'est pas... Il ne faut pas faire de l'occidentalocentrisme et penser la planète à partir de l'Occident.
Un milliard de personnes ne mangent pas à leur
faim. Des milliards de personnes sont déjà en difficulté.
Et presque 2 milliards n'ont pas assez d'eau.
J'ai demandé à des spécialistes, parce que je n'ai pas osé moi-même donner les chiffres, j'ai consulté des spécialistes qui m'ont dit que toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim.
Absolument.
Dans le concept, j'ai eu du mal à intégrer cette idée que toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim.
1 milliard de personnes s'endorment tous les soirs en ayant
voilà.
faim.
Donc ça, c'est une réalité. C'est pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui. Les gens qui sont en enfer, ils le sont déjà aujourd'hui. Donc le problème, c'est est-ce que ça va toucher tout le monde et auquel cas on comprendra ce qu'ont enduré les autres pour que les lieux de décision de ceux qui sont dans la décision planétaire puissent comprendre qu'il y a aujourd'hui, plutôt qu'à gérer des tas de niaiseries, qu'on puisse gérer véritablement les problèmes fondamentaux, et à ce moment-là, ils prendront à bras le corps, parce que ce sont des problèmes humains, ou bien est-ce que, de par le comportement aujourd'hui que nous avons à l'égard de la nourriture, à l'égard de la terre qui produit cette nourriture, à l'égard des semences, et j'y reviens, à l'égard de la disparition de plus en plus des paysans du tiers-monde qui sont de plus affamés, d'ailleurs maintenant c'est parce que les paysans, parce qu'ils produisent pour exporter au lieu de produire pour eux-mêmes. Eh bien, si on n'arrête pas ce processus-là, je pense qu'il y aura une généralisation de l'apocalypse. Et on va vers une véritable apocalypse si on ne prend pas conscience de notre inconscience.
Merci Pierre Rabhi.
Merci Pierre Rabhi.
Merci à vous.
Très heureux de finir avec vous cette série de 8 émissions dans lesquelles nous avons essayé de donner à réfléchir sur ce que manger veut dire, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse y trouver à la fois le plus de réflexion, de plaisir, de joie, de sujets de révolte et de sujets de réalité existante.
Ben merci à vous d'avoir mis en route cette réflexion parce qu'elle est fondamentale et essentielle.
Et je recommande à nos auditeurs vos fameux carnets d'alerte dont vous nous avez parlé. J'ai sous les yeux les deux premiers de la collection que vous avez lancés avec la journaliste Juliette Duquesne. Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition. Et le deuxième, pour en finir avec la faim dans le monde, c'est paru aux presses du Châtelet.
Merci beaucoup.
C'était la dernière émission du Sens des choses avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, à la réalisation Doria Zénine, à la technique Jaizan Taous. Je vous invite à vous rendre sur le site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées aux invités que nous avons reçus. Vous pourrez surtout réécouter et podcaster l'ensemble des émissions de cette série. Et pour ceux qui souhaiteraient nous écrire, voici une adresse email j@attali.com. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments. Très bel été à l'écoute de France Culture.